Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 141e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines, ou presque, le vendredi à 8h pour une petite sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Ouais, bonjour Fesquille.
Ça va bien?
Oh bah, fou là là, au moins aussi bien que la semaine dernière, mais beaucoup plus chaudement, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, je sais que tu as plein de travail, moi j'avais des trucs sur lesquels j'ai fail énormément, mais on nous a fait comprendre que les gens aimaient bien avoir ce petit podcast. Le vendredi matin.
Tout à fait.
Et nous, on s'est dit que ça nous faisait du bien de le faire, en fait. Ça nous oblige à sortir la tête du seau. Qui est rempli d'une matière assez... Non, elle est pas terrible, je ne vais pas décrire. Donc, on va parler de trucs rigolos. On commence par une petite section jeux vidéo qui n'a rien d'extraordinaire, mais où il y a des petites surprises. Donc, on s'est dit, tiens...
Rogue Company, par exemple.
Alors, Rogue Company, c'est un jeu qui est pas sorti. Alors, tout le monde fait, comment c'est possible? Caf, t'es trop fort. Non. En fait, ça, c'est parce que vous étiez pas sur Twitch ou sur les internets multimédia 2.0. En fait, c'est un nouveau titre de Hi-Rez Studio qui est en bêta, qui a démarré la semaine dernière. Alors, je vous avoue qu'il n'y a pas eu grand-chose niveau presse. C'est plutôt des streamers qui se sont tapés de faire la promo comme d'habitude. Hein. Vous connaissez la méthode maintenant, c'est assez classique. Et c'est un titre qu'on n'attendait pas du tout parce qu'ils n'ont pas du tout communiqué dessus. Il faut dire que c'est du 4v4 avec une ambiance un peu Counter-Strike, un petit peu plus musclé, donc avec un petit peu de Valorant au niveau du design, tu vois, et le tout en vue à la troisième personne comme Fortnite, parce qu'il faut bien vendre des skins, mes amis, parce qu'à mon avis, ça va être le business model, parce que Rogue Company, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Hi-Rez Studio, c'est le nouveau jeu d'une boîte qui a fait Paladin, qui, copie d'un certain Overwatch, un petit peu, qui n'a pas marché extraordinairement bien, Smite, qui est certainement leur plus gros succès. Moi, j'y ai beaucoup joué à Smite. J'aimais beaucoup ce titre. Une espèce de MOBA... Enfin, pas une espèce, d'ailleurs. C'était vraiment un MOBA en 3D à la
vue.
Ouais. Non. C'était TPS ou FPS? Non,
j'ai un doute, maintenant.
Non, TPS. Je crois que tu as raison. Je crois qu'on voyait le truc et il y avait des... Eh bien, écoutez... Venez nous insulter sur le forum, nous n'allons pas couper ce truc-là. J'y ai joué, franchement, je veux même pas regarder le nombre d'heures et je me rappelle même pas, donc parce que je l'ai pas lancé depuis très longtemps, c'est un peu la honte. Et le dernier en date, pour l'instant, c'était Realm Royale, qui était leur version Battle Royale, sauce magie, qui était, mais pas nul en fait. Mais ils ont un problème dans leur vie, c'est que leur design, il est jamais très accrocheur. À chaque fois, ça fait le taf, mais c'est pas extraordinaire. Et du coup, t'y joues quand t'as pas vraiment autre chose à faire, parce que c'est gratuit ou pas cher avec des packs fondateurs maintenant, voilà, parce que généralement c'est des free-to-play. Et puis tu te dis, écoutez, ça fera bien le boulot. Alors ils ont sorti un peu d'autres trucs avant. La boîte elle date pas d'hier. Ils sont basés à Atlanta, si je ne dis pas de bêtises, car il y a une grosse pêche emblème de la Géorgie sur tout leur jeu, hein, pour dire que à mon avis demande un peu d'argent à la région aussi. Et là, en fait, avec Rogue Company, on est dans un peu la même problématique. Le titre a l'air bien, mais il n'est pas visuellement extraordinaire. Il fait le taf, c'est tout. Donc, globalement, si vous regardez les streams, vous allez vous dire « Mince, je sais pas trop ». Si vous aimez les jeux à la troisième personne, testez-le, car en fait, il est beaucoup plus fun à jouer qu'à regarder. Alors, on va vous décrire ça vite fait. Hein. Au niveau du gameplay et du design du jeu, on est dans un classicisme absolu. Il y a plusieurs personnages qui sont en fait des archétypes, donc vous pouvez choisir ces persos, ça va être des snipers, les médics, des classes d'assaut, des classes de défense, vous connaissez le truc. Comme évidemment ça va être du free-to-play, pour l'instant il n'est pas free-to-play, mais pour avoir une clé d'accès à la bêta, c'est assez facile, il suffit de regarder des streams, ça tombe à peu près tout le temps actuellement, ou acheter un pack fondateur, on en parlera. Donc vous avez 6 persos gratos avec la bêta, il y en a 13 au total pour le moment, évidemment il n'y aura pas que des skins, ils vont nous faire un petit peu comme Riot, il y aura des persos à acheter, à mon avis, à terme, on peut déjà les débloquer avec la monnaie in-game du jeu, qui évidemment s'échange contre des vrais brousoufs, comme d'habitude. On connaît le système.
Il faut faire du business, hein.
Ah, là, ils sont là pour ça. Et surtout que, leur dernier titre, n'ont pas forcément été là pour rentabiliser la boîte. Donc, je suis pas sûr qu'ils puissent continuer à faire des trucs comme ça pendant 1000 ans. Il y a deux modes de jeu, démolition, qui est vraiment la copie Counter-Strike classique. Il y a une équipe qui pose une bombe, l'autre équipe qui essaye de la désamorcer et on change. Et un autre mode qui s'appelle Strikeout, qui est un mode assez classique aussi maintenant, on l'a déjà vu dans d'autres titres, où on a un nombre de tickets, en fait, de vie, et vous devez conquérir une zone, et quand vous avez cette zone, vous faites en sorte que votre équipe adverse perde plein de respawn, des droits au respawn, en fait, et au bout d'un moment, bah, celui qui n'a plus de vie perd la partie. Donc c'est plutôt le mode un peu casu qui permet de s'entraîner, parce que vous n'avez pas à attendre pendant 1000 ans que vos copains soient tous morts pour rejouer, comme dans le mode démolition, hein, qui est vraiment calqué sur Counter-Strike. Et on a cette map de dispo pour l'instant. Donc chaque personnage, vous avez compris, hein, a ses propres armes, son propre skill set avec des trucs qui sont vraiment spécifiques. Il y a Ronin qui est mon perso préféré, qui n'a rien à voir avec son design extrêmement, je veux dire, charmant. Voilà, n'y voyez rien. Voilà, hein, c'est juste que le personnage est bien. Point. Elle a un couteau de lancer qui, en fait, quand tu peux le mettre n'importe où sur la carte, va se transformer en bombe de proximité. Quand un ennemi passe à côté, il explose. Bon, bah voilà, ce truc-là, c'est la seule à l'avoir. Et hein, c'est le même principe pour chaque personnage. Il y a un médic qui s'appelle Sin, par exemple, qui a un pouvoir qui permet de raise à distance un pote qui est tombé à terre. Parce qu'on ne meurt pas instantanément comme dans un Counter-Strike. Dans ce jeu, il y a un petit côté repompé au Battle Royale. Vous tombez d'abord à genoux et il faut vous achever, en fait, derrière. D'accord. Il y a un perso, d'ailleurs, qui a son pouvoir, c'est de pouvoir se relever et de venir te faire chier. D'ailleurs, c'est rigolo parce que des fois, les gens oublient d'aller l'achever celui-là et ça tourne mal généralement. Donc, combien ça coûte tout ça ? Eh bien, écoutez, le pack Founder de base, il est à 15 balles. Le gros pack avec plein de skins, machin, enfin de la monnaie virtuelle pour acheter les skins, excusez-moi, et quelques skins, il est à 54€, ce qui, à mon avis, beaucoup trop cher vu qu'on ne sait absolument pas au jour d'aujourd'hui si le jeu va fonctionner ou pas. Mais si vous accrochez à la version gratuite, bah, vous pouvez claquer 30 balles. C'est le pack le plus intéressant. C'est celui qui unlock 6 héros. Donc, vous les avez quasiment tous à ce moment-là. Et avec un peu de money in game, vous aurez le dernier. De toute façon, le grind pour acheter un héros est pas ouf. C'est quand vous les voulez tous que vous sentez la douleur. Parce que, évidemment, quand tu joues comme dans Smite et comme dans les autres jeux du style, tu peux débloquer en jouant les autres héros. C'est juste beaucoup plus long. Évidemment, c'est fait pour ça. C'est fait pour vous faire dépenser de l'argent. Moi, pour l'instant, je l'ai streamé un petit peu la semaine dernière. Je trouve ça assez intéressant. Il y a des bonnes idées. J'ai deux problèmes avec le jeu. C'est que, un, je n'aime pas les TPS. Enfin, vraiment, là, le côté TPS, en plus, il faut gérer les angles. Et pour pouvoir gérer les angles en TPS, il faut changer la caméra d'épaule. Donc, tu peux le faire manuellement. Merci. Mais moi, je préfère de loin les FPS pour pouvoir profiter de ce genre de jeu. En revanche, le problème des FPS en termes de modèle économique, c'est que tu as beaucoup plus de mal à vendre des skins puisque tu ne les vois pas. Hein. Tu vois, on peut demander dans Apex, c'est une problématique classique. Donc, je suis pas fan de la caméra. Les cartes sont quand même pas folles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un milliard de stratégies par carte. C'est assez fermé. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais dans Counter, machin et tout, c'est pareil. Bon, ouais, mais je sais pas, c'est peut-être la vue qui fait ça, mais je trouve qu'on est assez limité très vite. Donc, à voir. Hein. Encore une fois, il est en bêta, il sort pas tout de suite officiellement. Bon, ils prennent déjà votre argent, hein. Il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aller tester ça assez facilement sans dépenser un seul euro. Donc voilà, ça vous fera peut-être un jeu à aller regarder si vous aimez bien le genre, sans dépenser d'argent cet été.
Et puis on va parler de Valiance Online, je vais y arriver.
Ouais, parce que là tu connais vachement, hein, c'est un jeu qui te parle, tout le monde sait ce que c'est que Valiance Online.
Absolument pas.
Bah oui, non, personne. Ça, je veux dire, je ne savais pas non plus jusqu'à ce que je tombe sur la news et je me dise, ah, je vais en parler parce que je connais des vieux fans qui vont aimer. Parce qu'en fait, c'est un MMO avec des super-héros qui va sortir dans pas trop longtemps. Puisque
c'est le nouveau City of Heroes. Hein.
C'est ça, il y en a eu plein, et City of Heroes était un des plus aimés, on va dire. Et bien, du coup, on va faire un bond en arrière, puisque ces jeux-là étaient morts depuis un petit moment. Là, on revient avec un jeu qui n'a pas l'air graphiquement extraordinaire, je vais pas vous mentir. Hein. On ne connaît pas grand-chose encore du jeu, car l'alpha qui est en cours est une alpha fermée. Donc, vous pouvez la rejoindre, mais il y a des petits NDA et tout ça qui font que normalement vous n'êtes pas censé vous étendre sur la chose. Mais je voulais juste vous dire que si vous aimez les MMO et les super-héros, ça devrait être dispo en bêta ouverte pendant le mois d'août. La date exacte m'a pas l'air très claire parce que j'ai lu des news petit peu contradictoires sur le sujet, mais enfin, pour l'instant, on nous parle d'un truc qui devrait être ouvert entre le 10 et le 16 août. Écoutez, vous verrez bien. J'ai linké à un papier de MMORPG.com qui parle de tout ça, ainsi que le site officiel. Je vous cache pas que le design, c'est pas le design d'un Marvel inspiré. Ça m'a pas l'air extraordinaire, mais bon, hein, voilà, un MMO un petit peu open avec des super-héros. On ira voir, parce qu'on est comme ça.
Puis c'est autre chose que du Moyen-Âgeux de l'Heroic Fantasy, voilà, j'y arriverai.
Ouais, exactement.
Allez, on va parler de Star Citizen parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas défoulé.
Ouais, alors en fait, on va parler de Star Citizen et surtout de Squadron 42, hein, ah. Squadron 42 qu'on attend depuis sa sortie prévue en 2019, n'oublions pas. Hein. je vous ai linké une petite news rigolote écrite de manière très factuelle par nos amis de chez Factor News qui rappelle que le jeu Squadron 42 donc était prévu pour l'année dernière. C'est la version standalone, hein, c'est censé être la version facile à développer. Lol. Et qu'on avait surtout pas de news de date, de rien depuis décembre. Et les mecs sont en mode, genre, la nouvelle excuse gratuite pour la boîte, c'est Covid. Ah, voilà, c'est pas de notre faute. Bah oui, mais enfin bon, les gars, ça fait 12 ans que c'est de votre faute. Enfin, je veux dire, 1000 ans, on s'en fout, je compte plus les années, là, tu vois. Par contre, pourquoi j'en parle, ça me fait beaucoup rire, parce que leur annonce, c'est en fait pour t'annoncer une roadmap de la roadmap. Et je ne déconne pas. C'est-à-dire que les mecs ont fait une roadmap de on va pas tarder à vous dire que. D'accord. Non, mais je trouve que moi, c'est du génie. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, les mecs, on sont à quoi? Plus de 300 millions de dollars. Mm-hmm. À ce niveau-là, t'es obligé de respecter l'arnaque.
On devrait peut-être faire la même chose pour Geekzone, en fait. Hein. Faire des paliers Patreon où on annonce peut-être des podcasts qu'on fera un jour.
Bah, moi, je fais ça, tu vois. Regarde, le dossier sur les claviers, ça fait 5 ans que j'en parle. Il est pas dispo, tu vois. Mais il faut qu'on up notre game. Non, franchement, Fasc, il faut qu'on invente un nouveau truc. Je sais pas, bientôt un remix spécial Geekzone de Fasquille, album complet de 2h30 de musique ambiante qui ne sortira jamais. mais le Patreon est là-bas. Enfin, tu vois, apparemment, ça marche. Enfin, tu vois, les gens te font un jeu. En plus, le truc, quand ils jouent, tu dis, c'est quand même un petit peu de la merde. Et non, parce que t'as des gens qui sont là, non, c'est pas vrai, c'est bien. J'en connais, hein. J'ai passé du temps sur Discord il y a pas longtemps avec un fan. Et moi, tu vois, franchement, je suis en mode, genre, ok.
Les biais cognitifs.
Ah, mais c'est incroyable. Là, je rappelle, hein, quand même, j'ai payé pour ce jeu et je n'ai pas annulé mon Kickstarter. Donc, je suis
allé. C'est juste pour te moquer.
Mais là, il y a un moment, mais tu vois, voilà, j'ai un compte avec tous les vaisseaux. Je vous rappelle ce détail. Donc, déjà, si vous êtes fan, détestez-moi, ça me fait rire. Mais en plus, le truc, j'ai pu tester. Non, il y a rien, quoi. Donc, on a encore beaucoup ri sur le forum cette semaine grâce à ça. Je me suis dit que ça vous détendrait sur la route des vacances si vous êtes dans votre voiture coincé par 42 degrés, d'entendre parler de Star Citizen et de Squadron Tiep. Donc voilà, c'est fait. Nous, on n'a pas de date. Non, il ne se passe rien. Mais par contre, vous aurez bientôt une superbe roadmap de roadmap. Et ça n'a pas de prix.
Non, enfin si quand même.
300 et quelques millions de dollars.
C'est ça, okay. C'est ce que j'allais dire. Allez, on passe à du plus sérieux avec la sortie de Flight Simulator 2020.
Ouais, voilà, c'est ça en fait qu'on va faire. Il faut retirer le projet Star Citizen à Chris Roberts et le filer à Asobo, puisque ça y est, on a le NDA est tombé sur Flight Simulator 2020, donc c'est la déferlante de vidéos et d'articles sur le sujet. Et je vous ai linké la meilleure vidéo, évidemment, sur le sujet, faite par l'éminent Agbou. Qui est en mode fanboy total. Là, il assume le mode fanboy. Il s'extasie pendant plus d'une heure et demie sur la qualité des nuages, etc., etc. C'est un titre dont je ne parlerai jamais car je n'aime pas les simulateurs de vol. Je me fais chier et enfin les simulateurs en général, si tu mets pas des canons sur le truc. Bon, écoutez, c'est génial, mais moi, conduire un bus de l'air, même si les turbulences sont modélisées, j'en ai rien à foutre. En revanche, je respecte à 1000% le boulot qui a été fait sur le truc. Ça a l'air incroyable. Alors moi, j'avais pas compris que tout le cockpit était cliquable, que t'allais avoir une version en réalité virtuelle. J'avais suivi un petit peu la techno du streaming des textures qui viennent de Bing Map, en fait, donc de photos satellites, qui est avec une forme d'intelligence artificielle qui est capable de te modéliser, en fait, les bâtiments. Mm-hmm. Ce qui est assez dingue sur des trucs qu'on n'a jamais vu, en fait, en simulateur de vol. Agbou en parle. Pour une fois, tu vas pouvoir survoler l'Afrique avec un truc qui a pas l'air ridicule, en fait, qui ressemble vraiment à l'Afrique. Et puis, s'il y a une hutte qui a été détectée sur la photo, si tu passes un peu bas en altitude, ça aura modélisé en 3D un truc qui ressemble à une hutte, parce que bah justement voilà, et c'était pas une blague truc, ça peut être une cahute et tout. Si vous y voyez une blague raciste, je ne peux plus rien pour vous. C'était
changer de podcast.
Changer de podcast, c'était vraiment pas le but quoi. C'est, voilà, n'importe quelle structure que l'intelligence artificielle reconnaît vaguement, normalement elle est capable de la modéliser d'après ce que j'ai pigé, et c'est assez impressionnant. Donc le produit sort courant août, vous allez pouvoir normalement cracher des avions car vous n'atterrirez jamais du premier coup comme d'habitude. Et puis bah, je voulais vous dire qu'effectivement on a fait quelques progrès parce que bon, visuellement ça défonce. Moi je trouve que même tout à fond, alors tous les fans de simulateurs disent que c'est extraordinaire et tout, moi quand je regarde des trucs et que tout le monde fait c'est extraordinaire et tout, j'avoue que je ne suis pas esbaudi.
Oula,
tu vois, tu cutteras le blanc parce que là, j'ai été le chercher loin, celui-là. Non, c'est compliqué. Franchement, ça me tue pas. C'est beau. Je suis vraiment. Il y a du taf. Je suis impressionné.
Je trouve ça très inégal en fait. Il y a vraiment une. Déjà, il y avait un monde entre les vidéos proposées par l'éditeur et puis ce que nous on avait vu en sous-main de gens qui testaient sur le forum. Déjà, il y avait une grosse différence. C'était pas aussi joli dans les vidéos des joueurs, curieusement. Alors, j'imagine que c'est aussi lié au bottleneck. Ils ont sans doute réduit les transferts, etc. pour pas non plus saturer les serveurs avant que le jeu sorte, mais moi je trouve ça quand même assez brouillon en fait, finalement, visuellement. Donc,
En fait, de ce que j'ai vu de la vidéo de Dagbou, ça va, il y a encore des bugs de texture et des fois l'intelligence artificielle reconnaît pas certains trucs, donc tu vas avoir des problèmes de jointure par exemple de texture, donc ça a fait des effets un petit peu chelous, mais comme le dit mon bon Boubou à la fin de sa vidéo, il y aura du sang et des larmes à la sortie, hein. C'est un truc de 100 gigas, il y a un milliard de patchs, il y a plein de trucs qui fonctionnent nouilles, qui sont pas encore au top, le vol aux instruments, il y a encore des trucs à améliorer, etc., etc. Mais on est sur une base hallucinante, et pour les fans, et c'est pour ça que je précise, pour les fans, ça va être du caviar. Mais voilà, je pense que ce podcast sera le seul et l'unique où on en parlera, parce que je suis pas qualifié, j'ai aucune affinité avec le genre depuis ses débuts. Alors évidemment, hein, j'en ai craché plein des avions, parce que c'était cette partie de l'histoire des jeux vidéo. Je vous rappelle, la première version, elle est sortie en 1979 sur TRS-80.
Mon Dieu.
Donc ça ne nous rajeunit pas. Et sur Apple II en 1980, parce que tout le monde dit oui, Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator, c'est 1982. Oui, mais non, parce qu'en fait, c'était Sublogic, la boîte qui a inventé ça. C'est un mec qui s'appelle Bruce Hartwick qui a développé ce truc-là. Et la blague, c'est que Sublogic, la boîte, est toujours vivante, 42 ans après.
Okay.
En fait, elle a été rétablie en 1998. Et pourquoi je vous en parle ? C'est parce qu'en fait, sur leur site, qui est très, 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 très moche, il y a un blog avec justement des petits articles sur la création de Flight Simulator. Donc, si vous êtes un fan, ça va se lire et je vous ai évidemment linké ça dans le billet qui accompagne le podcast, car je suis votre ami et vous savez, hein, si ça sent un peu la naphtaline, je suis là.
Allez, on passe du côté des apps avec une app que Google n'a pas encore tuée.
Non, bah parce que elle a que 2 ans.
C'est vrai.
Ça va. Non, c'était pour vous annoncer l'arrivée sur iOS de l'app Google One. Alors Google One, en fait, c'est uniquement une application qui regroupe plein de services en ligne de Google pour pouvoir gérer votre espace de stockage chez eux, que ça soit votre gestion des photos, Gmail, Google Drive, etc. Et qui aura été un prix relativement raisonnable. Sauf que je trouve que c'est quand même globalement pas terrible. Et je voulais vous en parler parce que oui, super, c'est sorti sur iOS. Mais moi, ma vraie question, et si quelqu'un a une réponse, des amis chez Google, parlez-moi, envoyez-moi des messages. Pourquoi Google, en 2020, n'a toujours pas fait un vrai concurrent de Dropbox avec une app qui s'installe proprement et qui nous permettrait de virer Dropbox qui, moi, en tant que client payant, me sort par les yeux en ce moment. J'adore le produit. Hein. Techniquement, c'est une tuerie. Tout marche. C'est génial. Je suis hyper content. Je n'en peux plus que les mecs essayent de me vendre d'autres options d'un truc alors que je leur lâche je sais plus combien de centaines d'euros par an, tu vois. Je trouve ça insupportable. Lâchez-moi la grappe, les mecs. Et les options sont pas ouf. Je pourrais vous parler de OneDrive, mais ça m'obligerait de vous parler de mon vrai travail et de tous les problèmes que j'ai eu avec OneDrive depuis 2 ans, qui est vraiment infoutu de gérer les logs de fichiers de manière un peu propre. On a des fichiers qui se bloquent chez certains. Quand ils l'ouvrent, l'autre veut essayer de travailler dessus, il peut pas. On trouve pas pourquoi. Le truc veut pas se resynchroniser. Enfin, Microsoft, s'il te plaît, sors-toi les doigts. C'est pitié. Donc ça, c'est insupportable. Nous, on est prêts à donner d'argent à Microsoft, tu vois, mais il faut que tu nous aides aussi. Donc voilà, je suis un petit peu déçu des concurrents de Dropbox globalement, et Google devrait être le concurrent numéro 1, et pour le moment, c'est toujours pas le cas, quoi.
Et puis on va parler pour les nostalgiques de recréer, c'est quoi, c'est, si j'ai bien compris, c'est recréer un vieux Macintosh en JavaScript.
Alors c'est ça, Macintosh.js. À l'heure où vous écouterez ce podcast, j'aurai normalement fait une news sur Geekzone qui va vous résumer tout ça. Le but du jeu est extrêmement simple, c'est un truc qui sert à rien, donc évidemment on vous en parle, parce que moi j'aime bien les vieux trucs qui servent à rien. C'est un mec qui s'est dit, je vais pas juste faire un émulateur, je vais faire un émulateur en JavaScript et basé avec Electron, donc tous les trucs qu'on déteste hein, d'habitude. Sauf que là, pourquoi j'en parle ? Parce que le mec a sorti des versions standalone qui fonctionnent sous Windows, macOS et Linux, et ça vous permet de déployer directement sur votre machine un fabuleux Quadra de 1991 et de retrouver les joies de macOS de l'époque, quoi. Mm-hmm. 1991, hein, pour ceux qui étaient pas nés ou qui ont oublié, qui étaient pas sur Mac à l'époque, c'était l'époque où l'Amiga était encore assez fort, le Mac était pas génial et déjà sur un peu sur la pente descendante, enfin c'était pas extraordinaire tout le temps, tu vois. Mm-hmm. Il y avait quand même, enfin c'était, ça allait, hein, c'était pas le drame du moment où Steve Jobs est revenu sauver la boîte à 4 mois de la fin du monde, mais c'est rigolo de pouvoir retoucher à ça sans se faire chier. On peut même, en ouvrant les paquets, aller rajouter ses propres applications à l'intérieur. Ça ne vaut pas un véritable émulateur. Pourquoi c'est intéressant ce truc-là ? C'est parce qu'en fait, voilà, vous récupérez juste une archive, vous la mettez sur votre disque dur, vous le lancez, et vous avez directement accès à ce Mac, et vous pouvez faire mumuse avec, et c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça que c'est rigolo, c'est du tout en un, il n'y a rien à installer de compliqué derrière, il n'y a pas de ROM à aller acheter, à aller récupérer sur un site un peu obscur. Donc c'est pour ça que c'est rigolo. Il y a tout expliqué sur la page GitHub du projet que je link dans le billet qui accompagne le podcast et surtout dans la news que je vais pas tarder à écrire, je vous promets que je vais le faire. et du coup voilà, allez voir ça, c'est un petit trip nostalgique rigolo, et puis ça tourne surprenamment vite pour un truc qui a autant de surcouches qui devrait pas être là, parce que finalement l'émulateur s'en passerait très bien si vous aviez un petit peu fait votre boulot, voilà.
Et on passe du côté de la culture et on reste dans la nostalgie, les trucs de vieux. Est-ce que tu te souviens des Psychedelic Furs?
Pas du tout, mais je sais même pas si je les ai connus en vrai.
Alors à mon avis, tu dois connaître leur tube qui s'appelait Pretty in Pink, qui était le morceau titre du film de John Hughes, du même nom, donc Pretty in Pink.
Ouais, si j'ai dû entendre.
Ça, c'était eux dans les années 80. Alors le groupe, en fait, ils ont sorti un album, un dernier album en 91, et puis après, ils ont fait une tournée. Et en 92, ils se sont dit, on va faire une petite pause. Alors la petite pause, elle a duré un peu longtemps, puisqu'en fait, là, ils n'ont plus rien sorti depuis. Et ils viennent de sortir aujourd'hui un nouvel album, qui devait normalement sortir en mai, mais à cause de Covid, ça a été retardé. Enfin, ça a été un peu plus vite pour le coup que Star Citizen, mais ils ont pris du retard aussi. C'était gratuit, ça. Et donc, ils ont sorti leur 8e album, qui s'appelle Made of Rain, 29 ans après leur dernier opus. Ce qui est quand même assez, assez inhabituel, on va dire.
J'espère qu'ils ont travaillé entre eux, là, les mecs étaient en train de se tourner les pouces.
Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait, en fait. Donc, c'est toujours articulé autour des frangins Butler, Richard Butler et Tim Butler. Là, le line-up a un peu changé, parce qu'en fait, je crois qu'ils ont continué à faire des tournées, des festivals au début des années 2000-2010. Et donc, ils ont changé un peu de line-up. Et là, maintenant, on retrouve au sein du line-up une certaine Amanda Kramer, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Information Society, et Rich Good, qui faisait partie de The Please, qu'ils avaient rejoint en 2009. Et plutôt que d'en parler pendant des heures, je propose qu'on écoute un extrait. C'est le single qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Don't Believe, donc le nouvel album des Psychedelic Furs, 29 ans après le précédent. Moi je dis c'est pas mal. What I never had, you'd get it, then it's gone again. You wonder where the weather went, you're sucking on a cigarette, and here comes the rain again, and heaven isn't heaven sent. Don't Believe, donc, les Psychedelic Furs, voilà, donc pour les nostalgiques des années 80, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait,
bah, cet album, il aurait pu sortir il y a 30 ans, quoi. Alors, la production est effectivement de qualité, mais ça reste un son très typé années 80, quand même. Et c'est, voilà. Pour les fans du groupe, vous serez pas dépaysés. Vous serez en terrain connu. Et moi, ça me fait plaisir de replonger dans du nouveau matos des Psychedelic Force. Et tous les groupes de l'époque qui se sont mis en veille pouvaient se réveiller. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, on reste toujours dans la nostalgie, les trucs de vieux, avec l'anniversaire de l'Amiga que t'as loupé, en plus.
Mais ouais, oh là là, dans la tech, la semaine dernière, je m'étais dit, ah là là, faut pas que j'oublie le truc. En plus, et ça ben tombe voilà. Le jour de l'enregistrement. Mais bon, voilà, les événements de la vie ont fait que je ne suis pas au top en ce moment. On fait ce qu'on peut, les gars. Et donc, jeudi dernier, en fait, pour être très exact, le 23, c'était les 35 ans de la sortie de l'Amiga 1000, la meilleure machine de l'histoire. Voilà, point. Alors évidemment, elle n'est pas restée aujourd'hui la meilleure machine de l'histoire, hein, mais au moment où elle est sortie, c'est le seul parallèle que je puisse faire, et que j'ai d'ailleurs dû faire à de nombreuses reprises, c'est la sortie de l'iPhone, tu vois. C'est vraiment un produit qui a mis une grosse claque à tout ce qui existait et tout le monde a fait genre merde, qu'est-ce qui se passe, on n'avait pas prévu ce truc là et qui donc tout le monde a ramé pendant des années pour rattraper son retard technologique face à l'Amiga 1000 qui a évolué et qui a donné lieu à une petite gamme sympa. Mais heureusement pour tout le monde, y compris Apple et compagnie, Commodore qui faisait l'Amiga était une boîte de merde gérée par un escroc. Enfin, le patron de la boîte, il était juste nul, mais le mec, il y a un mec dans la boîte qui s'appelait Irving Gould, qui lui est un escroc patenté. Vous pouvez regarder tous les documentaires sur le sujet, vous trouverez pas beaucoup de monde pour dire du bien de lui, au pire les gens ne disent rien. C'est bon, il a bien planté la boîte, ils ont jamais investi dans la recherche et le développement, ce qui fait que bah, quand tu fais pas de R&D en informatique, ça se passe pas très bien très longtemps, hein. Généralement tu meurs assez vite, c'est ce qui s'est passé pour l'Amiga, mais il y a quand même toujours une communauté de tarés qui continue de faire des choses incroyables. Je vous ai fait plein de papiers l'année dernière sur les émulateurs dispo, les packs tout en un, pour voir des bureaux et à quoi pourrait ressembler AmigaOS en 2020, en 2019 en l'occurrence, avec vraiment des trucs qui n'existaient pas sur les machines de l'époque en fait, hein. Les mecs ont continué de faire des petits devs, etc. Donc c'est rigolo, je vais vous linker ça dans le billet qui accompagne le podcast. Et puis moi, ça me faisait plaisir de reparler de cette bécane que je n'ai jamais eue car elle est sortie à un tarif largement prohibitif. Et moi, il a fallu que j'attende de 1987, 1988 même. Mais la machine est sortie en 87, c'est-à-dire l'Amiga 500. Qui était la version low cost tout en un, qui elle a fait des heureux. On est énormément sur Geekzone à avoir eu cette machine et à l'avoir toujours. Elle a une petite place spéciale dans notre petit cœur de geek. Non, je rigole pas. C'est vraiment ma machine préférée de tous les temps et du coup c'est pour ça que je vous fais souvent des petites news qui parlent d'émulation autour de ça. Je crois que vous aviez compris.
Ben moi j'en ai pas eu, figure-toi, mais j'ai emprunté celle d'un pote pendant 2 semaines et je crois que c'était les 2 plus belles semaines de ma vie à l'époque.
Mais voilà, c'est un truc. T'es, tu vois, t'avais un petit côté whoosh le futur.
Defender of the Crown, quel jeu de merde, mais qu'est-ce que c'était beau.
C'est ça. Parce que le gameplay, quand vous le relancez maintenant, vous faites.
Non, ça m'a vieilli, je te confirme.
C'est compliqué quand même. Bref, à la nostalgie, ça fait faire des trucs rigolos.
Allez, on termine ce podcast avec des news d'Intel qui se réveille, enfin, ça
non,
y est
non, non, ah non, non, okay, non. D'accord. Et c'est ça qui est drôle. En fait, Intel vient d'annoncer, et c'est pour ça qu'on en parle, je vous ai linké une petite news qui nous vient de chez Apple Insider, mais il y a des news partout sur le sujet dans tous les sites de tech depuis une petite semaine maintenant. Intel annonce que vraiment, vraiment, le 7 nanomètres, c'est compliqué, ils y arrivent pas. Je rappelle que Intel, ils font leurs processeurs, mais ils les fabriquent vraiment, c'est-à-dire que il y a plein de boîtes qui font des CPU, des GPU, etc., mais qui vont une fois que le produit est conçu, demander à des fabricants externes de fabriquer la puce. Mmh. Et Intel se fait normalement une gloire, une joie depuis des années de se dire non, nous on a nos propres fabs, on est des grandes personnes, il faut contrôler ces fabs pour être un vrai patron sur le business, vous êtes tous des merdes. Sauf que si leur fab c'est tellement de la chie, excusez-moi, hein, qu'ils arrivent toujours pas en fait à suivre la concurrence actuellement. Ah. Et donc là, bah, ça se passe tellement bien qu'au dernier petit call, tu sais, il y a les calls trimestriels pour annoncer les résultats de la boîte. C'est un peu comme quand tu ramènes ton carnet de notes. Sauf que là, bah, tu perds ton travail, en fait, quand ça se passe pas bien. Donc là, le mec qui a perdu à la courte paille, c'est Murthy, je vais l'appeler Rendu, hein, parce que c'est Rendu Chintala, je crois, mais m'insultez pas si j'arrive pas à le dire, qui était le patron de toute la division Technology System, Architecture and Clearance Group. En gros, il gérait pas mal de choses autour des fabs. Et bah écoutez, il n'a pas réussi à faire ce qu'il avait dit qu'il ferait, je crois. Hein, donc ils lui ont montré la porte. Et du coup, dans la foulée, il y a plein de gens qui doivent être virés, mais dont on dit pas le nom parce qu'ils sont pas à des postes assez hauts, puisqu'ils réorganisent tout pour bah, essayer de remettre un petit peu le train sur les rails. Et il n'est pas impossible que Intel aille faire fabriquer ses puces ailleurs. En attendant, ce qui est d'une ironie magnifique. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et pendant ce temps-là, on a AMD qui fait ses présentations de la même manière et qui, eux, annoncent toujours le Zen 4 en 5 nanomètres 2021. Si ça, c'est pas un magnifique doigt d'honneur.
Ça nargue.
Ah bah là, ça nargue, mais d'une force. Donc, bon, voilà, vous savez tous que là, tous les mecs qu'on a monté, qui ont un petit peu de jugeote et qui ont monté des bécanes cette année, les ont montés avec des processeurs Ryzen parce que, bon, en termes de rapport qualité-prix, il y a juste pas photo. Là, écoutez, l'année prochaine, je pense que ça va continuer parce que bah, Intel, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ce genre de problématique, hein, c'est un petit peu, je parlais d'Amiga tout à l'heure, qui n'investissait pas dans la R&D. Bah, là, Intel, récupérer un retard pareil après, ça devient très compliqué. Mmh. C'est pour ça qu'il est très possible qu'ils aillent demander l'aide d'autres sociétés pour fabriquer leurs puces. Et si ça arrive, ça va rigoler sur les blocs de tech. Oh là 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 là, ça va se moquer très très fort. Donc voilà, bon, c'était un petit peu la news tech rigolote que pour les gens comme moi. Mais moi, ça m'amuse parce que les mecs sont arrogants depuis des années, tu vois. Mmh. Et la boîte est en perdition depuis des années. Et puis, bah là, écoutez, c'est le drame. Et c'est ce qui arrive quand tu n'as plus d'ingénieurs qui dirigent la boîte et que tu as des gens qui ne savent pas trop, mais qui auraient fait, ça se trouve, des très, très grandes carrières en vendeur de croquettes, mais pas en vendeur de CPU, tu vois.
Un bon petit reality check, comme on dit pour Intel. Et c'est la fin de ce 141e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, bah, d'ici là, on va retourner bosser. Moi, j'ai pas fini et j'ai des pages à rendre pour demain et je suis pas en avance.
Ouais, mais là, t'as un petit montage et puis tu vas t'aérer la tête, donc tu vas être super. Donc, tu vois, ça va t'aérer l'esprit. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans le pouvoir du podcast. Et puis, ouais, on dit peut-être parce que voilà, on sait qu'on vous est en vacances. Il n'est pas impossible qu'on prenne des vacances comme ça à la sauvage sans vous préférer.
Fais les air guillemets quand tu dis vacances,
ouais,
c'est important.
Des vacances. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de vacances dans le cas présent. Mais bref, qu'on ne soit pas dispo pour certains podcasts. Mais bon, voilà, quand on peut, on le fera avec grand plaisir.
Allez, peut-être à la semaine prochaine. Alors, bon week-end, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.